Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. L'envie ou le rejet, c'est peu de dire que les États-Unis provoquent des sentiments contrastés depuis que le pays est une superpuissance. On peut débattre à l'infini du modèle américain, mais ce que l'on ne peut pas contester, c'est l'influence à la fois politique, diplomatique, militaire, économique, scientifique et culturelle du pays depuis des décennies. Mais avec un isolement diplomatique grandissant, la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 100 000 morts et des millions de chômeurs et qui n'est pas encore maîtrisée, puis les manifestations après la mort de George Floyd à Minneapolis, l'image du pays est écornée. L'influence américaine est-elle durablement affaiblie? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous par téléphone. Distanciation physique oblige. André Caspi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, spécialiste des États-Unis, auteur de très nombreux livres, dont « La nation armée, les armes au cœur de la culture américaine », paru aux éditions de l'Observatoire. Pierre Mélandry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes également historien et auteur du Siècle américain, une histoire aux éditions Perrin. Martin Quincé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur et directeur adjoint du German Marshall Fund à Paris. C'est un think tank, ou en français, un centre de réflexion qui travaille sur les relations transatlantiques. Alors on va rendre à César ce qui lui appartient. C'est un article du quotidien Le Monde intitulé « Le soft power américain, fin de partie, point d'interrogation » qui nous a inspiré cette discussion. André Caspi, est-ce que vous partagez ce constat d'une baisse de l'influence américaine, pour utiliser un mot plus français ?
Oui, mais tout d'abord, je voudrais saluer Pierre Mélandry. Mais cela dit, c'est vrai que le soft power américain n'est plus ce qu'il était. Ou plus exactement, il s'est transformé. Parce que finalement, ce que l'on appelle la mondialisation fait qu'il y a une sorte d'américanisation du monde. Les événements de Minneapolis ont eu des répercussions dans pratiquement tous les pays, tous les pays de la planète, y compris l'Australie, sans parler bien sûr des différents pays d'Europe. Ce qui veut donc dire que, en fin de compte, ce qui se passe aux États-Unis ne nous laisse pas indifférents, loin de là. Et je dirais même que, dans certains cas, on essaye d'imiter les Américains. Alors la question qui se pose, c'est de savoir s'il est possible de trouver, par exemple, en France, une situation comparable à celle des États-Unis. Ça, c'est une discussion que l'on pourrait avoir et sur laquelle j'ai plutôt un avis négatif. Je crois que la situation française n'est pas la situation américaine. Mais il n'empêche que les mots d'ordre que l'on entend aux États-Unis, on les retrouve, par exemple, en France. Et cette volonté qui est manifestée par un certain nombre de Français, c'est pas un très grand nombre, hein, parce que, si je ne me trompe, la dernière manifestation a rassemblé 23 000 personnes, mais il n'empêche que c'est le signe que ce qui se passe aux États-Unis ne nous laisse pas indifférents.
Pierre Mélandry, vous pouvez d'abord rendre ces salutations à André Caspi et ensuite vous exprimer sur ce sujet. Est-ce qu'il y a une baisse de l'influence américaine dans le monde ?
Oui, écoutez, je pense André Caspi a dit des choses très justes de ce point de vue, et je suis heureux moi aussi de le saluer à cette occasion, à savoir que les États-Unis continuent malgré tout d'être une sorte de point de repère du monde, et ce qui se passe chez eux ne nous laisse jamais indifférents. En revanche, je pense aussi que cela n'empêche pas qu'ils soient en relatif déclin. À une époque, malgré tout, l'Amérique avait une énorme influence dans le sens, je dirais, positif. Les gens se tournaient vers les États-Unis avec une certaine fascination. Ce n'est plus, me semble-t-il, du tout le cas aujourd'hui. Au fond, je me rappelle avoir, quand j'étais très jeune, en 63, fait un exposé sur l'American Way of Life, et nous étions tous à l'époque fascinés par la modernité, la nonce de l'avenir auquel s'identifiait l'Amérique. De nos jours, je ne pense pas que le modèle américain soit l'objet d'une telle fascination. Je dirais même aujourd'hui qu'il est plutôt, dans la résonance qu'il a, un objet de désapprobation. C'est l'indignation par rapport à ce qui a pu se passer à Minneapolis qui suscite les manifestations en France. Et là, il y a peut-être un élément sur lequel nous devrons réfléchir, c'est effectivement cette baisse et même ce déclin du soft power américain, un pays qui à une époque fascinait et qui aujourd'hui tend plutôt a suscité des moments d'indignation ou en tout cas de doute.
Martin Quincé, du doute vis-à-vis des États-Unis, c'est ce que vous ressentez également ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a la question de la capacité de l'administration américaine à influencer les choix, les décisions de ses partenaires, des autres pays. Et en cela, on peut voir un déclin qui est apparu, alors évidemment, durant l'administration Trump de manière assez claire, mais qui a précédé cela. Je pense néanmoins que ce qu'on voit dernièrement avec, comme le précisait André Caspi, ces mouvements qui ont démarré aux États-Unis, qui ont été repris ou qui ont eu beaucoup d'influence ici en Europe et partout dans le monde, on voit que les États-Unis restent une puissance d'influence culturelle très forte. Et ça, Donald Trump, le Covid ne changent pas cette capacité d'influence. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au niveau des facteurs plus tangibles d'influence, c'est-à-dire la puissance économique, la puissance militaire, la capacité diplomatique du pays, et je dirais également les questions technologiques et scientifiques, il y a clairement un déclin relatif vis-à-vis de la Chine, notamment, je pense, donc dans le domaine scientifique et technologique, dans certains domaines très particuliers qui pourraient transformer le monde, l'économie du monde, on pense à la 5G, à l'intelligence artificielle, au calculateur quantique. Dans ces domaines-là, si les États-Unis restent très attractifs, ils n'ont plus nécessairement le leadership scientifique. Et c'est ça qui va aussi déterminer l'influence du pays dans les années à venir.
André Caspi, les images de files d'attente gigantesques pour de l'aide alimentaire pendant la pandémie de Covid-19, est-ce qu'elles ne font quand même pas très mal à l'image d'une Amérique toute puissante ?
Alors, de toute évidence, le chômage a frappé très fort aux États-Unis, puisque aujourd'hui on estime qu'il y a entre 35 et 40 millions de chômeurs, même si tout récemment on annonçait dans le même souffle que 2,5 millions d'emplois avaient été créés au moment où se termine, espérons-le, la pandémie du coronavirus. Je dis espérons-le parce que...
Oui, les chiffres de vendredi ont été un petit peu discutés, on va dire.
Oui, mais il faut quand même rappeler que la pandémie est loin d'être terminée aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'est pas aux États-Unis dans la situation de la France, puisque les États-Unis sont arrivés un peu plus tard dans le cœur de l'épidémie et peut-être n'ont-ils pas pris toutes les mesures nécessaires pour arrêter aussi rapidement l'épidémie qu'on l'a fait en France. Alors, rapidement en France, enfin, ça a quand même duré 2 mois et demi. Mais tout ça pour vous dire, en somme, que les États-Unis, aujourd'hui, représentent malgré tout un pays qui a des difficultés économiques et qui rappelle, par certains côtés, les années 30. C'est-à-dire qu'au cours des années 30, il y avait une très grande crise économique et sociale. Je parle des années 30 du XXe siècle, bien sûr. Et c'est cette crise économique et sociale qui a marqué les Américains durablement. Alors, est-ce que cette même crise va se répéter à partir de maintenant ? Je n'en sais rien, parce que j'ai toujours eu beaucoup de mal en tant qu'historien à prévoir l'avenir. Je me suis contenté de prévoir le passé, mais il n'empêche que les États-Unis sont dans la difficulté. Et cela se manifeste, en effet, dans un certain nombre de villes, ça se manifeste dans les milieux pauvres. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, je crois, les communautés noires, qui ne sont pas toutes pauvres, loin de là, mais les communautés noires sont malgré tout frappées par la misère, par la maladie, par le coronavirus, et c'est ce qui explique aussi leurs incertitudes, leur volonté de changement, leur combativité dans certains cas. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans une situation où l'Amérique n'est pas dans son état normal, c'est-à-dire que ça n'est pas le pays de la prospérité, c'est le pays actuellement des difficultés, et des difficultés dans différents domaines, que ce soit économique, le domaine social, le domaine politique, et bien sûr, comme on l'a rappelé tout à l'heure, le domaine de la politique étrangère.
Pierre Mélandry, est-ce que vous voyez, vous, d'autres signes inquiétants ? Vous qui êtes universitaire, par exemple, est-ce que les universités américaines sont toujours aussi attractives ?
Oui, elle l'était d'ailleurs. On sait qu'actuellement, Il y avait eu jusqu'à longtemps, jusqu'à pas très longtemps, beaucoup d'étudiants chinois qui venaient dans les universités américaines et que souvent les leaders chinois tenaient à s'assurer qu'un de leurs enfants aille dans les universités américaines. Non, il y a effectivement là toutes sortes de forces culturelles américaines. Il y a la langue, bien sûr, mais il y a aussi les fameux GAFA, enfin, qui sont quand même une influence extraordinaire. On a les fondations. Non, là, et sans parler évidemment de ce qui est plus traditionnel, le cinéma, les firmes comme Starbucks ou Coca. Non, là, on a vraiment encore de très beaux restes de cette influence culturelle américaine qui est encore un de leurs atouts. Mais je pense que la situation actuelle est quand même tout à fait inquiétante parce qu'on cumule trois crises. André Caspi rappelait à juste titre qu'on a eu une crise terrible dans les années 1930. On avait eu une grippe espagnole en 18, une pandémie, et on avait eu des émeutes raciales dans les années 60. Mais aujourd'hui, on a les trois phénomènes à la fois, et c'est évidemment très lourd à porter. Et d'autant plus lourd quand même que le système américain a été, depuis la grande époque des années 50 et 60, considérablement affaibli. Au fond, si je devais faire un constat un peu schématique, et je m'en excuse, du temps de la très grande Amérique des années 40, 50, 60, l'Amérique de l'American way of life, de la modernité, de l'exceptionnalisme, etc., on avait d'un côté un aspect éclatant qui était la richesse des classes moyennes. Beaucoup d'Américains n'ayant fait que des études secondaires pouvaient espérer vivre très confortablement. Et l'on avait, en revanche, un aspect plus sombre, évidemment, qui était la question raciale. Or, ce qu'on a aujourd'hui, et ce que les événements récents viennent de montrer, c'est qu'au fond, en 2016, l'élection de Trump s'explique assez largement par le désarroi, la colère, le désespoir d'une bonne partie de la classe moyenne blanche américaine qui s'est estimée trahie par le système. Et on s'aperçoit que la question noire et les problèmes d'inégalité raciale continuent à être encore un élément très fort dans cette société américaine. Et évidemment, avec un président comme le président actuel, qui n'est guère porté à jouer les unificateurs, on peut se penser que les mois à venir risquent d'être difficiles pour les États-Unis et que leur image à l'étranger, qui avait quand même été déjà écornée par la guerre d'Irak, et la façon très unilatérale, passant outre au Conseil de sécurité avec laquelle il s'était engagé dans le conflit, à Abu Ghraib, Guantanamo, tout ceci fait que l'Amérique, évidemment, n'est plus aussi ni admirée, ni respectée dans le monde, et ce d'autant plus que des puissances concurrentes n'hésitent plus à manifester des ambitions contraire, et je pense évidemment, cela a déjà été dit dans cette émission, à la Chine qui se pose de plus en plus en grande rivale des États-Unis et qui inquiète manifestement les dirigeants américains.
Alors les Américains, Martin Quincé, et je mets de très gros guillemets quand j'essentialise abusivement, évidemment, comme ça, les habitants des États-Unis, les Américains sont-ils eux-mêmes toujours persuadés que leur pays est le meilleur pays au monde, hein, the greatest country in the world, ou est-ce qu'il y a un doute qui est en train de s'instiller ?
Alors il y a un doute qu'on peut suivre dans les sondages d'opinion depuis plusieurs années, quelque chose qui avait déjà marqué les années Obama, et le président Obama lui-même avait dû s'expliquer plusieurs fois sur sa vision de l'exceptionnalisme américain, puisque ses opposants du Parti républicain le soupçonnaient d'être quelqu'un qui finalement niait cet exceptionnalisme. Durant la campagne de 2015-2016, Donald Trump est souvent revenu sur cette idée, lui il a vraiment l'idée que les États-Unis non seulement sont en déclin, mais également qu'ils devraient se comporter comme tous les autres. On se rappelle de cette interview lorsque un journaliste lui dit « Vladimir Poutine est un tueur » et que Donald Trump répond « Mais vous pensez que nous sommes si innocents que ça ?» Et c'était finalement assez symbolique de la vision à la fois de Donald Trump, mais d'une partie de l'électorat américain, de ce que représentaient aujourd'hui les États-Unis. Néanmoins, au-delà même de leur propre perception, moi ce que ce qui me choque peut-être plus dans les choix de l'administration actuelle, c'est sa décision de ne pas finalement jouer de son influence dans les organisations internationales, sur la scène internationale, mais davantage de se retirer d'un certain nombre d'institutions lorsqu'ils perçoivent une influence grandissante de la Chine ou d'autres acteurs internationaux. Et c'est peut-être ça qui est le plus dangereux à terme pour l'influence américaine et pour la capacité des États-Unis à conduire, à créer des coalitions. C'est qu'au lieu de rester au cœur du système et d'être en compétition avec un certain nombre d'acteurs, je pense notamment à la Chine, ils décident de se retirer. Alors c'est une position qui est fondamentalement trumpienne et qui ne serait pas la même si en novembre prochain Joe Biden gagne l'élection, mais c'est quelque chose qui pourrait déterminer dans les années à venir la capacité des Européens et des alliés des États-Unis en Asie à se tourner ou non vers Washington et à voir en Washington encore un acteur influent. Donc il y a encore une capacité de décision qui est dans les mains des dirigeants américains.
André Caspi, Donald Trump a annoncé samedi le report du sommet du G7 qui était prévu dans quelques jours à Washington et à Camp David. La chancelière allemande Angela Merkel ne voulait pas venir officiellement pour des raisons sanitaires. D'autres Européens ne voulaient pas du retour de la Russie demandé par Donald Trump. Et comme vient de le dire Martin Quincey, les États-Unis, est-ce qu'ils sont isolés diplomatiquement ?
Non, je crois que il faut quand même voir les choses d'une manière un tout petit peu différente. Tout à l'heure, Pierre Mélandry rappelait à juste titre que l'intervention des États-Unis en Irak n'avait pas été approuvée par tous leurs alliés, y compris notamment par la France. Ce qui veut donc dire que les États-Unis, lorsqu'ils interviennent, ne sont pas nécessairement les représentants d'une très grande coalition. Et j'ajouterai une chose, c'est que Barack Obama lui-même a déjà inauguré une sorte de repli américain. Rappelez-vous l'attitude de Barack Obama sur le conflit au Moyen-Orient, lorsque la France était prête à intervenir, je crois que c'était en 2013, Barack Obama, lui, a dit non, la ligne rouge n'est pas franchie alors qu'elle l'avait été. Ce qui veut donc dire que Donald Trump n'a fait que pousser beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de brutalité, une tendance qui est déjà marquée, c'est-à-dire celle du repli américain. Le repli américain, ça n'est pas une nouveauté, c'est en somme une conséquence, si l'on peut dire, de la fin de la guerre froide. Il n'y a plus en face l'Union soviétique, il y a maintenant la Chine. Ce qui veut donc dire que le conflit que les Américains envisagent, ça n'est plus un conflit idéologique, c'est un conflit politique, commercial, économique, stratégique. Vous pouvez utiliser tous les adjectifs, mais ça n'est plus le conflit du monde de la liberté contre le monde de l'oppression, même si le régime chinois incarne l'oppression pure et dure. Donc ça veut donc dire qu'il y a un changement qui s'est fait dans l'ensemble des relations internationales, et ce changement s'est manifesté tout particulièrement au niveau de Washington. Alors, cela dit, Donald Trump pratique une diplomatie abrupte, quelquefois difficile à comprendre, mais d'un autre côté, je crois qu'il s'inscrit dans une évolution qu'il n'a pas créé, mais qu'il contribue à accentuer. Voilà mon interprétation.
Oui, Pierre Mélandry, j'allais vous poser exactement la question. Je ne sais pas si on peut déjà parler d'un retour à l'isolationnisme, parce que ce sont des processus longs à l'échelle de l'histoire, mais est-ce que c'est transitoire et lié à Donald Trump, ou est-ce que, comme le disait à l'instant André Caspi, c'est quelque chose qui progresse depuis plus longtemps que ça ?
Oui, mais il faut se rappeler quand même que America First a longtemps été la doctrine de la politique étrangère américaine. Ce n'est qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale que les Américains ont décidé de participer à des organisations internationales et de pratiquer un multilatéralisme assez éclairé qui, longtemps d'ailleurs, a porté ses fruits. Mais au fur et à mesure, ils l'ont fait pourquoi ? Parce qu'au fond, ils étaient dans une position dominante très forte qui leur permettait de se montrer assez généreux avec le reste du monde, en tout cas avec les démocraties industrielles dont ils ne voulaient surtout pas risquer la chute dans le camp soviétique. Ça a commencé déjà à bouger dès les années 70, et je me rappelle qu'en 78-79, un de nos collègues, Richard Rosecrans, avait écrit un livre intitulé America as an ordinary country, l'Amérique comme pays ordinaire, ce qui va à l'encontre même du concept d'exceptionnalisme. L'Amérique redoutait à cette époque déjà d'être en déclin, et le premier à avoir fait campagne sur le fameux MAGA, Make America Great Again, que l'on attribue désormais à Trump, c'est quand même Reagan en 80. Reagan, avec sa révolution conservatrice, a donné le change au moins quelques décennies, puisque on a eu la chute de l'URSS et l'impression que l'Amérique était ce que Hubert Védrine appelait une hyperpuissance, un nouvel empire du milieu, bref, qu'elle allait pouvoir recommencer le monde. C'était évidemment un moment d'hubris, compréhensible, mais dont les conséquences étaient à attendre. Le tout a débouché sur l'aventure catastrophique en Irak, sur la crise de 2008. Et depuis ce moment, effectivement, avec Obama, il y a une tentation du repli. La différence étant, évidemment, entre Trump et Obama, qu'Obama a considéré que le meilleur moyen pour les États-Unis de garder le leadership tout en se repliant était de s'appuyer sur les alliances. Pour lui, elles étaient la solution. Pour Trump, elles sont le problème. Obama pensait aussi que la meilleure solution pour les États-Unis pour rester un leader était de se montrer uni. Trump s'efforce, semble-t-il, de la diviser. Et on a aujourd'hui, évidemment, une Amérique qui, du coup, a complètement changé avec Trump de politique. Au fond, lorsque l'on avait créé l'espèce d'empire américain fondé sur des alliances au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, Dean Acheson, qui était le secrétaire d'État de l'époque, avait intitulé ses mémoires « Present at the Creation ». Or, lorsque Trump est arrivé, la revue Foreign Affairs a titré, avec cette fois un point d'interrogation, « Present at the destruction ». C'est-à-dire que Trump a considéré que tout ce système qui avait longtemps servi les États-Unis ne les servait plus. Et effectivement, on le voit se retirer de plusieurs organisations internationales, de traités, remettre en cause les accords, bref, bouleverser un petit peu le système sur lequel, jusqu'ici, les États-Unis avaient fondé leur leadership.
Martin Quincé, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le retour à une forme de tradition isolationniste qui a présidé à la création des États-Unis?
Alors c'est vrai que c'est la question assez centrale finalement de se demander si Donald Trump est une cause de ces changements ou s'il ne participe qu'à une tendance beaucoup plus longue et qu'il est en beaucoup de cas dans la continuité de ce que Barack Obama avait pu faire. Je pense comme ce qui a été dit précédemment qu'il faut voir véritablement comment cette volonté de repli ou plutôt de rééquilibrer la politique étrangère américaine se traduit en politique concrète. Et en cela, cette traduction, elle est très différente quand on regarde les choix de l'administration Obama et les choix de l'administration Trump. Donc, il faut toujours rester à la fois conscient d'une forme de continuité et lorsqu'on analyse les choix concrets de ces administrations, alors que ce soit dans leur rapport au multilatéralisme, leur rapport aux alliés, l'utilisation d'un certain nombre d'outils économique et diplomatique, on a quand même un bilan très différent après 4 ans de l'administration Trump que ce qu'on avait pu voir avec Obama. Il faut aussi penser que nous parlons ici de France, nous avons une perception assez française de ce débat, puisque lorsqu'on pense aux années Obama, en effet, le choix de l'administration Obama vis-à-vis de la Syrie constitue un tournant. Puisque, comme ça l'a été rappelé, la France s'est retrouvée isolée à la fin de l'été 2013, au moment de la ligne rouge. pour nos partenaires européens, c'est un moment qui est perçu beaucoup moins comme un tournant, puisque on se rappelle qu'à ce moment-là, les Britanniques avaient déjà s'étaient déjà retirés de l'idée d'une intervention, que les Allemands ne souhaitaient absolument pas participer à une quelconque intervention punitive en Syrie, que nos alliés en Europe centrale ou en Europe du Nord n'y pensaient pas non plus. Donc on a également, dans ce débat de savoir si Trump est en continuité ou non avec ses prédécesseurs, des différences au sein des perceptions européennes. Un dernier point, c'est finalement dans ce qui va se passer après l'élection de novembre, on aura toujours aux États-Unis une population qui n'a plus vraiment d'appétit pour de grandes interventions, notamment au Moyen-Orient. Il est évident qu'il y a une fatigue qui est née notamment de la guerre en Irak et qui perdurera. En cela, ça continuera de créer des limites à certaines ambitions et Joe Biden ou Donald Trump devront prendre cela en compte. Mais on peut parier sur le fait que si Joe Biden est élu, lui, et il l'a écrit dans un article pour Foreign Affairs tout récemment, souhaitera mettre en place un nouveau leadership américain qui se rapproche davantage du leadership, disons, de Barack Obama, c'est-à-dire de réintégrer un certain nombre d'institutions multilatérales en force, de réinvestir dans ces institutions et ces organisations pour pouvoir influencer les actions du monde. Donc il y a néanmoins donc une tendance de longue qui est notable depuis la fin de la guerre froide, mais des traductions politiques assez différentes selon les présidents.
Oui, André Caspi, parce que la puissance, ce n'est pas que le soft power, c'est aussi le hard power, c'est-à-dire la force brute, hein, pas du tout symbolique. Oui. Là, les États-Unis sont en recul ou pas ? Il y a eu le retrait de Syrie et d'Irak, d'Afghanistan. Un retrait d'un tiers des troupes stationnées en Allemagne est aussi envisagé dans les prochaines années. Est-ce que, voilà, du point de vue force brute, on est en recul ?
Bah, c'est-à-dire que je ne sais pas si c'est un recul, je pense que c'est un recentrage, c'est-à-dire que il y a des zones qui paraissent aux États-Unis d'aujourd'hui beaucoup plus importantes que d'autres. Aujourd'hui, sans doute Donald Trump estime-t-il que l'Allemagne n'est plus menacée. Alors, a-t-il raison, a-t-il tort, je n'en sais rien. Mais en tout état de cause, on n'est plus dans une perspective de guerre froide en Europe. Donc, pour Donald Trump, ce qui est important, c'est sans doute les relations bonnes et surtout très mauvaises avec l'Iran. C'est aussi évidemment la guerre commerciale, la guerre idéologique avec la Chine et tous les problèmes qui découlent de ces relations difficiles, que ce soit aux alentours de la Corée, dans la mer de Chine du Sud. Tout cela en somme fait qu'il y a de la part de Donald Trump une sorte de recentrage. Alors, est-ce que la force militaire des États-Unis est plus faible aujourd'hui qu'avant ? Je ne le crois pas, parce que le budget militaire des États-Unis reste quand même très élevé si on le compare avec le budget militaire des puissances européennes. Donc ce que je crois simplement, c'est que c'est une direction différente qui est imposée à l'effort militaire, et les États-Unis restent malgré tout la puissance peut-être la plus forte sur l'échiquier mondial. C'est mon opinion, hein. Évidemment, on peut dire que je me trompe, mais il me semble que c'est une évidence et c'est pour cela que je la partage.
Pierre Mélandry, je suis pas loin de penser que vous la partagez également. Est-ce qu'on va un peu vite quand on parle de l'affaiblissement de la puissance américaine, au moins symbolique ?
C'est-à-dire que l'Amérique n'a plus du tout cette espèce de puissance absolue, de monopole de l'influence qui a pu être pratiquement le sien pendant assez longtemps. Mais effectivement, il reste les premiers. Et je crois que la Chine ne tient pas fatalement à endosser ce que les Américains appelleraient le fardeau de l'Empire. Elle préfère surtout agir sur le plan économique. Je crois que je souscris tout à fait à ce que disait André Caspi. Non, le budget militaire a été fortement augmenté, mais c'est dans une direction très précise, c'est la Chine. Et il faut se rappeler que là, il y a continuité. Obama avait le premier lancé la notion de pivot. Oui. Pour les États-Unis, là où les choses vont se passer, c'est effectivement l'Extrême-Orient et l'Asie. Oui. Je dirais qu'il y a eu...
Je vais vous demander de conclure, Pierre Mélandry.
Pardon ?
Je vais vous demander de conclure assez rapidement, en fait.
Oui, je dirais qu'il y a eu deux continuités au-delà des énormes différences, le refus du multilatéralisme par Trump. Il y a eu deux continuités, c'est le nation building at home, le sentiment que la population américaine voulait qu'on donne la priorité aux questions intérieures, et on voit aujourd'hui à quel point cela est peut-être nécessaire, et l'idée que les alliés, Obama le disait de façon plus polie, devait contribuer davantage.
Merci Pierre Mélandry, merci André Caspi, merci Martin Quincé d'avoir participé à cette émission. Prenez soin de vous et des autres. Bonjour chez vous.
Appelez-nous